Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 17 novembre, 11h30, donc chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Je voudrais commencer cette chronique par un communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée suite à une nouvelle agression perpétrée contre la librairie de la Fédération nationale de la libre pensée. Nous sommes quand même dans une période où nous voyons se multiplier ce genre de choses et il faut effectivement réagir sans la moindre ambiguïté. Donc le communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée est intitulé « Contre les intimidations de l'extrême droite pour la défense de la liberté de penser ». Par deux fois, la librairie de la Fédération nationale de la libre pensée a été vandalisée ces dernières 48 heures. Dans un premier temps, le trottoir devant la librairie a été maculé de slogans et ce matin, donc c'était le samedi matin, nous découvrions à l'ouverture que la vitrine de notre librairie a été recouverte de projectiles. On nous reproche d'avoir rempli notre fonction, défendre la liberté de la recherche en ouvrant notre salle de réunion aux personnes voulant assister à distance au colloque organisé par Henri Laurens, La Palestine et l'Europe, poids du passé et dynamique contemporaine. Je fais une petite parenthèse, je reviendrai sur ce sujet-là juste après ce communiqué. Ce colloque, initialement prévu au Collège de France, avait été censuré à la demande des soutiens du gouvernement des extrêmes droites, de Netanyahou, et du ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Il y a quelque temps déjà, des extrémistes catholiques ont manifesté devant notre librairie et menacé la libre pensée parce qu'elle fait respecter les dispositions de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. La Fédération nationale de la libre pensée s'honore de déranger l'extrême droite, d'où qu'elle vienne. Fidèle à ses principes, la FNLP continuera son combat pour l'esprit critique contre tous les dogmes. À quelques jours de la célébration des 120 ans de la loi de 1905, la FNLP appelle tous les défenseurs de la liberté de penser à manifester leur solidarité contre ces intimidations inacceptables. Et donc, c'est un texte rédigé le 15 novembre, c'est-à-dire samedi dernier. Et en ce qui concerne les soutiens apportés à la libre pensée, je dois dire que nous en avons localement reçu un de la part de Violette Folgado. Je tenais à le signaler. Alors, j'en arrive donc justement à cette question du colloque qui aurait dû se tenir au Collège de France. Et là encore, j'ai un communiqué qui est un communiqué commun de la Fédération nationale de la libre pensée et de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, l'IRELP, dont je vous donne lecture. Université Collège de France, une chape de plomb s'abat sur la recherche en France. Ce communiqué est daté du 10 novembre. Le Collège de France a annoncé le 9 novembre la déprogrammation d'un colloque consacré à l'histoire de la question palestinienne sous pression de certains médias et organisations pro-israéliennes. Depuis plusieurs mois, pas une semaine ne s'écoule sans que les autorités officielles et leurs relais médiatiques n'interviennent dans la vie des institutions académiques pour y imposer une chape de plomb sur la pensée. Souvent, ces interventions consistent à salir des universités, des groupes de recherche ou des personnes en entretenant un ignoble soupçon d'antisémitisme dès lors qu'est programmé un événement un tant soit peu critique envers les exactions génocidaires perpétrées à Gaza. À défaut, tout est bon pour raviver le fantasme complotiste d'une cinquième colonne woke ou islamo-gauchiste, entre guillemets. Quand cette stratégie de la tension produit un débordement, une bagarre entre individus mal identifiés, voire une descente de nervis, on incrimine les établissements. Ceux-ci sont invités à procéder eux-mêmes à l'annulation ou à l'interdiction d'activités scientifiques ou d'événements publics au prétexte que l'ordre public est menacé. La censure est de moins en moins nécessaire, l'autocensure progresse et il faut de plus en plus se replier dans les interstices pour continuer à interroger les préjugés racistes, sexistes, pour analyser factuellement des ravages du capitalisme, pour proposer une analyse historique des relations de pouvoir, ou pour mener des recherches scientifiques et techniques impliquant d'accéder à des données qui intéressent les pouvoirs économiques ou militaires. Ce dernier volet de la répression est moins médiatisé que celui qui touche les sciences humaines et sociales, mais il n'est pas moins dangereux. Le 9 novembre, un palier supplémentaire a été franchi. Anticipant sans doute une attaque en règle par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'administrateur du Collège de France a déprogrammé un colloque consacré à l'histoire de la question palestinienne. On pouvait s'inquiéter des menées contre des événements portés par des structures associatives. On pouvait s'alarmer de voir tel ou tel historien dénigré en place publique. Ici, on assiste à l'annulation pure et simple d'un événement scientifique faisant partie intégrante des missions de la recherche publique. Mesdames et messieurs, vous ne penserez pas, vous ne travaillerez pas. Qui plus est, ce lockdown idéologique frappe l'institution française la plus étroitement liée à la notion d'indépendance de la science, le Collège de France, qui a précisément été fondé il y a 5 siècles, pour permettre aux savants désireux d'étudier l'histoire et les langues du Moyen-Orient de le faire à l'abri de la censure et de l'intimidation par les inquisiteurs. Un exécutif qui se propose de panthéoniser Marc Bloch laisse aujourd'hui intimider son établissement par quelques nervis et par une presse aux ordres. Un gouvernement qui n'a que les principes de la République à la bouche ne demande qu'à emboîter le pas à Napoléon le Petit, qui fit taire Michelet et Quinet. Le symbole est lourd et il doit réveiller celles et ceux qui se versent d'illusions sur l'autoritarisme en marche. La Fédération nationale de la libre pensée et l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée adressent leur plus solennel soutien au professeur Henri Laurence, qui se voit traîné dans la boue et empêché de travailler comme il le voulait par les séides du pouvoir. Il est temps de s'unir pour la poursuite de la vérité, pour la liberté des sciences, pour les Lumières. La libre pensée prendra sa part à ce rassemblement pour la raison, la critique et la liberté académique. Elle appelle toutes les personnes et organisations partageant ce combat à agir ensemble contre ce nouvel obscurantisme. Voilà. Donc c'était ce communiqué commun FNLP-IREL. Et je voudrais donc, en prolongement de ce dossier, lire un article qui a été publié sur Mediapart. Parce qu'il se trouve que la justice avait été saisie contre l'annulation de ce colloque et que la justice l'a validé. Donc il y a un article dont je vous propose de faire lecture, article publié sur le Mediapart. Le titre, c'est « La justice valide l'annulation du colloque du Collège de France et c'est grave ». Le tribunal administratif de Paris a rejeté les recours contre l'annulation du colloque sur la Palestine et l'Europe qui devait se dérouler au sein du prestigieux établissement. Une décision dangereuse, fondée sur des éléments douteux qui catalysent la mise en danger des libertés académiques. C'était publié donc le 13 novembre. Hein, on est sur des communiqués qui sont tout à fait récents. Mercredi 12 novembre au soir, le tribunal administratif de Paris a rejeté les recours référés liberté formés contre l'annulation du colloque intitulé « La Palestine et l'Europe, poids du passé et dynamique contemporaine » qui devait se tenir au Collège de France jeudi 13 et vendredi 14 novembre. 3 jours plus tôt, dimanche 9 novembre, l'administrateur du Collège de France, Thomas Romer, a décidé d'annuler le colloque dont le programme et les intervenants étaient connus et annoncés depuis des mois en réaction à la polémique initiée par un article du Point publié le 7 novembre. Le 8 novembre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, s'était fendu d'une lettre d'une tartufferie rare adressée à Thomas Romer, prétendant à la fois défendre les libertés académiques comme des, citations, « principes fondamentaux de notre état de droit », tout en intervenant contre ces dernières. Il faisait part de son « désaccord avec l'angle retenu » et regrettait l'impact durable que l'organisation de ce colloque serait susceptible d'avoir sur l'image de l'institution. Vous avez compris à Menton là où sont les guillemets. De son côté, le juge des référés a estimé que dans la mesure où les organisateurs de l'événement ont réussi à le maintenir aux mêmes dates et dans un nouveau lieu, en l'occurrence les locaux exigus du Centre arabe de recherche et d'études politiques, le CAREP, co-organisateur de l'événement, à Paris. Citation « il n'ait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique, de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Donc c'est la citation donc, du jugement du juge des référés. Les dizaines d'intervenants venus des quatre coins du monde, qui avaient organisé leur emploi du temps pour être présents à Paris, et dont les déplacements et frais de séjour étaient déjà payés pour une somme totale avoisinant les 50 000 euros, n'ont en effet pas été privés de parole. Mais il est inexact de dire que le colloque a pu se tenir, juge l'avocat Raphaël Kemp, qui avait été saisi par les organisateurs et des participants pour déposer un recours contre cette annulation et a décidé de saisir le Conseil d'État. Un colloque comme celui-ci, ce n'est pas seulement des communications, c'est aussi des échanges, des rencontres, des discussions. Par définition, la science naît de ces moments de dialogue et de débat. Or, ceux-ci ne sont pas possibles dans une salle avec une jauge de 35 personnes, réduite encore par la nécessité de mettre des caméras pour diffuser le colloque en direct. Celui-ci aurait dû avoir lieu dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, Collège de France, qui peut accueillir plus de 460 personnes. Et dispose de dispositifs de traduction simultanée nécessaires pour un colloque à dimension internationale. Pour Raphaël Kempf, citation, « Cette décision est une prime à l'ignorance et une incitation à la censure et constitue un inadmissible coup porté aux libertés académiques, au débat d'idées et à la possibilité de diffuser les résultats de la recherche académique. » Fin de citation. Deux éléments interrogent particulièrement la décision du tribunal administratif de valider l'annulation. Le premier est la défense produite par le Collège de France, fondée essentiellement sur des graffitis vus dans la rue 15 jours avant l'ouverture du colloque et sans lien avec ce dernier. L'établissement avait alors déposé une plainte que Mediapart a pu consulter pour « dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin ». Après avoir découvert le 3 novembre des graffitis mentionnant le conflit entre Israël et la Palestine, mentionnant aussi deux noms de professeurs tels que Henri Laurens, titulaire d'une chaire d'histoire contemporaine du monde arabe, et Patrick Boucheron, titulaire de chaire d'histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe et XIVe siècle, évoquant ces thèmes durant leur cours. On y retrouve aussi des phrases mentionnant Hamas, tueur, violeur. Fin de citation. Le gardien de la paix qui enregistre la plainte précise ensuite « Aucune violence n'a été commise envers ces deux professeurs. Aucun harcèlement n'a été commis envers ces deux professeurs. Aucune dégradation n'a été commise. » Si l'historien Patrick Boucheron n'avait rien à voir avec le colloque sur la Palestine et l'Europe, Henri Laurens, un des meilleurs historiens du Proche-Orient en France, en était l'organisateur. On se retrouve donc dans la situation ubuesque où des tags visant un professeur au Collège de France aboutissent à l'annulation du colloque que celui-ci devait organiser. Rappelons pour mémoire l'indignation inverse qui avait traversé la France lorsque des tags désignant des enseignants accusés d'islamophobie étaient apparus sur les murs de l'Université de Grenoble. Ici, non seulement ces attaques sur les murs d'une institution académique n'ont suscité aucune indignation, mais elles ont abouti à la silenciarisation de celui qui en était victime. Le second élément est l'implication dans l'affaire du collectif Action Avocat, une association fondée, citation, « pour lutter contre la recrudescence des actes antisémites en France, lutter contre l'apologie du terrorisme et pour la libération des otages encore entre les mains de l'organisation terroriste Hamas ». Fin de citation. Ce collectif avait écrit le 8 novembre au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, pour lui faire part de sa vive préoccupation concernant le colloque. « J'imagine que notre courrier et toutes les autres initiatives ont permis cette annulation. Bravo à tous !» Et c'est ce que dit Déborah Journeau, présidente d'Action Avocat. Action Avocat rappelait dans cette lettre le fait que, citation, « la France a officiellement adopté la définition de l'antisémitisme de l'IRA, IHRA, Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui précise notamment que la négation du droit à l'autodétermination du peuple juif ou l'application de standards différents à Israël peuvent constituer des formes contemporaines d'antisémitisme. » Fin de citation. Rappelons que cette définition est très controversée et que le juriste états-unien Kenneth Stern, qui a pourtant contribué à la forger, juge désormais que, citation, loin de faciliter la lutte simultanée contre l'antisémitisme et contre les préjugés dogmatiques visant Israël, la tentative de censurer toute critique d'Israël la rend plus difficile. » Fin de citation. Dans une boucle d'emails d'un groupe d'universitaires appelé Réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, Déborah Journaud, présidente d'Action Avocat, écrit « Nous avons adressé un courrier à l'administrateur du Collège de France, plus copie au ministre de l'Enseignement hier par email. J'imagine que notre courrier et toutes les autres initiatives ont permis cette annulation. Bravo à tous. » L'administrateur du Collège de France n'ayant pas répondu à nos sollicitations. C'est Mediapart qui parle. La chaîne qui a abouti à cette annulation demeure incertaine. Pression médiatique organisée par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la RICRA, et le point, rôle de ce réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, outillé juridiquement par l'association Action Avocat, pression liberticide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans sa lettre adressée à Thomas Roumer, ou initiative personnelle de ce dernier, ainsi qu'il l'a laissé entendre devant les professeurs du Collège de France, réunis lundi 10 novembre dans l'urgence. Un doute émerge. Le germano-suisse Thomas Roumer, bibliste et grand spécialiste de l'Ancien Testament, a-t-il pu réagir par crainte que ses recherches en Israël et en Cisjordanie soient compromises s'il laissait ce colloque se tenir en l'état dans sa prestigieuse institution ? Sa décision, lourde de conséquences, à quoi qu'il en soit, fait réagir non seulement un collectif de prestigieux universitaires qui estiment que cette interdiction ouvre la voie à une censure institutionnelle, mais aussi à une partie des professeurs du Collège de France qui jugent que cette annulation, citation, crée un précédent d'une extrême gravité. Bien que conscient des pressions qui pesaient sur sa tenue et des responsabilités administratives qui en découlent, nous regrettons cette décision qui fait prévaloir de façon disproportionnée les questions de sécurité sur le respect de la liberté académique, objet de menaces croissantes en de nombreux endroits du monde, écrivent ainsi les 14 professeurs donc du Collège de France. L'annulation de ce colloque, remplacée par des communications à huis clos au goût d'ersatz, fait aussi rejaillir d'anciennes querelles, notamment celles qui ont opposé les islamologues et les djihadologues, François Burga et Gilles Kepel, encore vives, alors que la France se souvient ce 13 novembre des attentats de Paris et de Saint-Denis, comme il y a tout juste 10 ans. L'article du Point a ainsi mis directement en cause François Burga, sans lien avec le colloque, mais qui fut directeur du CAREP. En avril, ce centre de recherche indépendant, mais financé par des fonds publics qataris, avait rapporté son soutien à ce directeur de recherche émérite au CNRS, alors que celui-ci était jugé pour apologie du terrorisme à la suite d'un message sur X où il affirmait avoir, citation, « infiniment plus de respect et de considération pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l'État d'Israël ». Fin de citation. Des faits pour lesquels le tribunal d'Aix-en-Provence l'a relaxé fin mai. Quant au réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, on retrouve les noms de Pierre-André Taguieff, de l'historien Emmanuel de Bonneau, ou encore d'Emmanuel Droit, directeur de Sciences Po Strasbourg. Il relaye dans ses échanges d'emails l'obsession ancienne de Gilles Kepel, relayée par la chercheuse aux thèses complotistes et farfelues Florence Bergeau-Blacker sur l'entrisme des frères musulmans en France. Le colloque y est présenté comme une offensive frériste destinée à faire vaciller l'université française. Citation, « Les frères et leurs collaborateurs ont un objectif précis. Ils veulent administrer le chaos, donc dans l'ordre, semer la zizanie dans les démocraties occidentales, profiter du chaos pour gagner du terrain en termes de pouvoir. » Fin de citation. Assure une maître de conférence en psychologie, membre de ce réseau. Reprenant la rhétorique également présente dans le rapport très controversé commandé par le ministère de l'Intérieur sur les frères musulmans, elle explique encore que l'université est investie, citation, comme terrain fertile principal pour semer la zizanie, par exemple entre collègues, entre étudiants au sein des directions et décanats de fac. Mais outre ces rejeux de querelles, plus médiatiques qu'académiques qu'anciennes, déjà anciennes, l'annulation du colloque s'inscrit évidemment dans les effets de long terme du massacre du 7 octobre et de l'anéantissement de Gaza. L'article du Point a ainsi dénoncé un colloque qui risquait de se muer en deux journées à tendance pro-Hamas. Il pointait notamment la présence parmi les modérateurs de l'anthropologue Véronique Bontemps en précisant qu'elle avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour apologie du terrorisme. Après 2 ans de génocide, on a l'impression d'être revenu au point de départ, c'est-à-dire que le simple fait de parler de la Palestine peut vous valoir des accusations d'apologie du terrorisme. C'est la citation de Véronique Bontemps. Signalé par des collègues sur la plateforme Pharos pour avoir relayé sur une liste interne un tract de solidaires étudiants appelant le 8 octobre 2023 au soutien indéfectible à la lutte du peuple palestinien dans toutes ses modalités et formes de lutte, cette chercheuse avait dû effectivement s'en expliquer devant sa hiérarchie. Le fait qu'elle ait condamné les massacres de civils dans les 2 messages suivants et pris ses distances avec le communiqué du syndicat n'avait pas empêché une convocation dénoncée par nombre de chercheurs. Après 2 ans de génocide, on a l'impression d'être revenu au point de départ, c'est-à-dire que le simple fait de parler de la Palestine, je reprends la citation de tout à l'heure, peut vous valoir des accusations d'apologie du terrorisme. À ce sujet, Le Point a écrit que, c'est donc Véronique Bontemps qui parle, j'avais fait l'objet d'une procédure disciplinaire du CNRS pour l'apologie du terrorisme, sans préciser que j'avais été blanchi de cette accusation, explique-t-elle aujourd'hui à Mediapart. Et donc j'en arrive à la conclusion de cet article. L'état des libertés académiques, notamment quand il est question de la Palestine, sera tout bientôt de nouveau à l'ordre du jour, puisque le 16 décembre doit se tenir, toujours au Collège de France, une journée d'études intitulée « Politics and Poetics on the Ruins of Gaza »,« Politique et poésie sur les ruines de Gaza », organisée par le professeur Didier Fassin. Le titulaire de la chaire « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines » assure à Mediapart qu'il a reçu, citation, « l'assurance de l'administrateur du Collège de France qu'il ne sera pas annulé », fin de citation, même s'il ne doute pas que son collègue fera l'objet d'attaques et de pressions. Voilà, donc ça c'est l'article de Joseph Confavreux qui a été publié sur Mediapart et qui, je pense, donne un éclairage très intéressant sur cette autocensure que le directeur du Collège de France a prononcé contre donc le colloque qui devait s'y tenir et qui s'est tenu donc effectivement au même moment et dans un autre lieu, mais dans des conditions qui n'avaient plus rien à voir avec celles du Collège de France. Alors je vous propose simplement maintenant d'écouter le choix musical que je vous propose en relation étroite avec ce que je viens de dire, puisque j'ai choisi la chanson d'Henri Tachant, La censure.
Elle est malingre, elle est petite, elle boit de grands verres d'eau bénite, tout en feuilletant le glossaire des mots interdits par Dieu le Père. Elle coupe, elle mutile ou elle blesse, ici un cœur, là une fesse. Elle est le chirurgien des rois, l'ambroise paraît sans foi ni loi. Sur le corps, elle porte une bure pour cacher ses trésors absents. Sur le cœur, elle porte une tonsure comme on porte un Saint-Sacrement. La censure, la censure. Elle est le Cerbère des royaumes, l'hydra sans tête et le pogrome. La main de fer et le baillon qui étouffent les révolutions. Elle est le grand inquisiteur, le bûcher purificateur. Et il n'y a pas tellement longtemps, de Buchenwald au Ku Klux Klan. Sur le corps, elle porte des souillures de poudre de terre et de sang. Sur le cœur, elle porte une armure enrouillée par la haine et le temps. La censure, la censure. Aujourd'hui, dans la douce France, en l'an de grâce et de jouvence, la revoilà qui pointe son nez, qui roule des yeux sous son bonnet. La revoilà qui prolifère, qui pudibonde, qui vitupère, contre une poignée d'objecteurs qui déshonore ses chants d'honneur. Sur le corps, elle porte des dorures pour mieux endormir les enfants. Et sur le cœur des moisissures de prison froide et de couvent, la censure, la censure. voudrait censurer le striptease, la presse du cœur et les faillots. Faudrait trouver la terre promise ailleurs qu'aux conneries de radio. Faudrait qu'un de ces jours on muselle les battleurs et leurs bagouts. Faudrait qu'un de ces jours les bordels reviennent faire un petit tour chez nous. Faudrait enfin qu'on me réponde, qu'on me convainque, qu'on me rassure, que je ne suis pas le seul au monde à vouloir qu'un jour on censure. La censure, la censure.
Censurer la censure. Quel beau programme. Donc, je profite de ces quelques minutes qui restent pour, d'une part, rappeler donc les initiatives du groupe Fred Zeller. Alors, déjà, d'abord, le 8 novembre dernier, donc, conjointement avec la Ligue des droits de l'homme et le mouvement de la paix, le rassemblement qui a eu lieu à Saint-André-Alas, devant la stèle que la mairie de cette localité a fait poser devant le monument aux morts, stèle en hommage à Antoine Royer, enfant du pays, enfant de Saint-André-Alas, qui a été fusillé pour l'exemple en 1916. Et puis le 11 novembre, comme c'est son habitude, le groupe Fred Zeller a organisé un déplacement jusqu'à Gensioux, où se tenait un rassemblement extrêmement important devant le monument aux morts pacifistes de Gensioux. Je rappelle, c'est ce monument qui a été financé par par le public, hein, par une souscription publique, et où on voit un écolier qui brandit le poing en disant « Maudite soit la guerre ». Et puis maintenant, le groupe Fred Zeller a encore de nombreux projets, puisque le 29 novembre, c'est une journée mondiale donc, pour la défense de la Palestine, Free Palestine, à laquelle bien sûr nous participerons. Et le 6 décembre, un meeting qui se tiendra à Paris pour les 120 ans de l'anniversaire des 120 ans de la loi de 1905, avec un rassemblement appelé par, je crois maintenant, 40 associations et organisations. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ça se tiendra donc le 6 décembre à Paris, dans la salle ENAF, qui est donc une salle de la Bourse du Travail de Paris. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ces initiatives. Bien évidemment, vous retrouverez sur le site de la radio RLP, mais également sur le site du groupe Fred Zeller, les indications que j'ai pu donner dans cette chronique, avec les liens qui vous permettent de revenir sur les différents textes que j'ai pu lire. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez entrer en contact avec le groupe Fred Zeller, on a une adresse mail, groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr. Donc, excellente semaine et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Censurons la censure, pour reprendre les paroles d'Henri Tachan.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
Elle tient ton glaive.